La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Le texte ce matin se trouve en Matthieu 28, du verset 16 au verset 20. Matthieu 28, 16 à 20.
Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait enseignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen.
Nous sommes venus ici ce matin avec le désir d'adorer Dieu. Que nous soyons des membres de cette communauté, des amis, des visiteurs de passage ou plus ou moins réguliers, nous sommes venus là, nous avons laissé nos activités habituelles pour nous rassembler, pour chanter ensemble, pour nous encourager. Et je dois dire que je me suis fait du bien déjà à partager avec vous ces chants qui ont été choisis et qui nous ont focalisé notre attention sur le Seigneur Jésus. Nous sommes une église chrétienne. Le Seigneur Jésus est au centre de nos pensées et de notre adoration. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur l'une des paroles de ce Seigneur Jésus. Nous savons que la Bible nous explique que Dieu l'a envoyé avec une mission particulière à remplir sur cette terre. Il est né comme un petit enfant, il a grandi, et puis il a commencé un ministère au sein de la population de Galilée, de Judée. Finalement, il a été arrêté, il est mort. Mais la Bible nous explique qu'il est ressuscité aussi. Et le Christ ressuscité, avant de remonter au ciel, d'où il avait été envoyé, a parlé. Et les paroles du ressuscité devraient nous intéresser particulièrement. Ce sont ses dernières paroles sur la terre. Des paroles qui sont sans doute parmi les plus importantes, parce que ce sont comme les dernières consignes qu'il a données à ses disciples, les derniers enseignements qu'il a voulu mettre dans leur mémoire pour qu'ils s'en souviennent et pour qu'elles marquent toute leur façon de vivre. Or, il est frappant à tout lecteur des quatre évangiles que les dernières paroles de Jésus constitue un ordre de mission. La formule qui nous a été lue tout à l'heure est celle de l'évangile selon Matthieu, qui est sans doute la plus connue des quatre. Et j'aimerais attirer votre attention sur certaines dimensions de cet ordre de mission. D'abord, si vous avez remarqué, ceux qui ont reçu cette parole étaient 11 personnes. Il en manquait une au groupe que Jésus avait constitué quelques années auparavant. En plus, il est dit que ces personnes sont venues à un lieu où Jésus leur avait donné rendez-vous sur une colline de Galilée, mais que certaines avaient des doutes. Ce n'étaient donc pas des personnes parfaites. Ce n'étaient pas des personnes sans défauts, sans lacunes. C'étaient des personnes comme vous et moi, avec leurs grandeurs et leurs misères, avec leurs bons côtés, leurs qualités et leurs défauts. Mais c'étaient des personnes à qui Jésus voulait parler. Et quand Jésus parle, lui, le Verbe de Dieu qui a été fait chair, sa parole a une grande efficacité. Il dit, et la chose existe. C'est la parole du Créateur, c'est une parole puissante. Et cette parole, telle qu'elle est rapportée par Matthieu, nous dit d'abord une chose assez extraordinaire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cet homme qui a été méprisé, battu, moqué, sur qui l'on a craché, sur la tête duquel on a enfoncé à coups de bâton des épines qui l'ont fait saigner, cet homme méprisé, cet homme qui a l'air d'être totalement impuissant, est en train de dire « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » Tout pouvoir. Il y a quantité de circonstances dans nos vies où nous nous sentons impuissants, incapables de résoudre les défis qui se présentent, de répondre aux questions qui se posent. Et ce n'est pas que nous, quand nous regardons les instances dirigeantes de nos pays, ceux qui détiennent les responsabilités politiques, nous sommes bien conscients que eux non plus ne détiennent pas les véritables pouvoirs. Certes, ils sont dans des positions clés, mais ils ne parviennent pas à faire ce qu'ils rêvent de faire. Et souvent, nous sommes là dans l'impuissance. La plus importante des églises chrétiennes de notre pays a décidé que cette semaine qui commence demain, qui va du 11 au 18 octobre 2015, c'est la semaine de la mission. Pour l'Église catholique romaine, c'est une semaine importante. Demain, dans beaucoup de paroisses, on va prêcher sur la mission. Alors c'est vrai, nous aussi, en tant qu'adventistes, nous sommes intéressés à la mission. Tout à l'heure, nous avons regardé un petit film qui nous montrait des jeunes qui étudient dans des pays musulmans où il n'y a pas beaucoup de liberté de remplir la mission, mais qui parviennent à créer des relations, à partager leur foi autour d'eux. Même si ça paraît impossible, il y a des lueurs qui montrent que Dieu est là, qu'il a ce pouvoir, qu'il est capable de toucher des cœurs. Et l'expérience que nous avons vécue, Suzy et moi, l'année dernière au Maroc, nous a encouragés dans ce domaine-là. Nous avons parfois l'impression que l'ordre donné par Jésus est impossible à accomplir dans nos sociétés. Cette semaine sont parues des statistiques ou des recherches statistiques intéressantes qui disent que en 2050, il y aura moins de croyants sur la terre. Qu'en 2050, si l'on prolonge toutes les données statistiques que l'on détient, il y aura plus de musulmans que de chrétiens parmi les croyants, et que dans un pays comme la France, la proportion des chrétiens va diminuer encore de façon drastique. Alors c'est vrai qu'en regardant des statistiques de ce genre-là, on pourrait se dire cet ordre de mission donné par le ressuscité, il est battu d'avance. Il n'y a pas vraiment de solution pour parvenir à obéir à cet ordre de façon efficace. Et on pourrait se décourager. D'ailleurs, j'ai l'impression que bien souvent, notre Église a perdu de vue sa mission, qu'elle ne sait pas comment s'y prendre pour évangéliser autour d'elle, qu'elle a beaucoup de questions et peu de réponses dans ce domaine, et je comprends cela. J'ai consacré une grande partie de mes dernières années de service officiel de l'Église à la tête du département de l'évangélisation de notre union, et je sais que c'est un vrai défi. Pourtant, je crois avec force que l'ordre de mission que le ressuscité nous a donné est un ordre qu'il nous faut prendre à bras le corps, est un ordre dont nous ne pouvons pas nous passer, et que cet ordre se traduit pour nous ici à Damary-les-Lys de façon très concrète, de la façon suivante. Il nous faut implanter une nouvelle église adventiste dans la région. Si je suis parvenu à cette conviction, c'est pour différentes raisons, mais les raisons principales sont les suivantes. La première raison, c'est que l'ordre de Jésus, il nous faut y obéir. Nous venons là pour adorer Dieu, nous chantons à la gloire de Jésus, mais je crois parfois entendre les prophètes de l'Ancien Testament qui diraient « J'ai horreur de vos chants, je ne veux pas vous voir rassemblés si ce que vous faites quand vous êtes là entre vous ne correspond pas à ce que vous vivez toute la semaine en permanence dans votre vie quotidienne. » Et accueillir un Jésus ressuscité qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » sans nous lever, sans y aller et sans nous mettre à l'œuvre pour faire des disciples, j'ai le sentiment que c'est se moquer de lui. Et faire des disciples, pour une église comme la nôtre, qui a fêté il y a quelques années ses 90 ans d'histoire, qui se trouve situé dans une région où il y a déjà plusieurs autres églises, dont deux qui sont en quelque sorte des implantations de la nôtre, l'église de Fontainebleau lorsque ce bâtiment a été construit en 1973, l'église de Savigny-le-Temple dans le début des années 80, lorsqu'un membre de notre église, plutôt visiteur que membre, pourrait-on dire dans un sens, a eu cette vision très claire pour que cette église soit créée. Mais depuis ce temps-là, notre église semble stagner. C'est vrai, de temps en temps, elle a des baptêmes. Elle continue à partager sa foi. Elle continue à baptiser certains des jeunes de nos familles. Mais elle vieillit en moyenne. L'âge moyen de notre église est supérieur à 55 ans. Certes, elle est dans une région où il y a plusieurs autres églises, mais elle est dans une région aussi où arrivent de nouveaux adventistes qui sont issus de différentes autres régions du pays ou d'ailleurs. Et cette église n'a pas la capacité de grandir autrement qu'en implantant d'autres églises. Il est donc important que nous réfléchissions à cet ordre que Jésus nous a donné. Et cet ordre, eh bien, non seulement il nous faut l'écouter, le prendre à bras le corps, l'accueillir, lui obéir, mais il faut en comprendre certaines des dimensions qui nous aideront, à savoir pourquoi le Seigneur nous invite à aller dans cette direction maintenant. D'abord, Jésus dit ici, allez, faites des disciples. Il s'agit de multiplier les disciples. Et pour multiplier les disciples, on a constaté à travers l'histoire qu'il fallait multiplier les églises. Plus il y a d'églises, plus il y a de disciples. Moins il y a d'églises, moins il y a de disciples. Il faut donc multiplier les églises dans notre région, et l'une de nos responsabilités est d'y contribuer activement. La deuxième chose que je remarque, c'est qu'il dit « faites de toutes les nations ». C'est pas moi qui vous apprendrai que nous vivons dans une époque de mondialisation où, dans notre région géographique, on trouve des représentants de beaucoup de nations diverses. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'assemblée que nous formons pour le constater immédiatement. Nous n'avons pas encore partagé notre foi avec toutes les nations. Le pluriel qui est là pourrait être aussi utilisé pour parler d'autres différences. Nous avons des différences qui ne sont pas que nationales. Nous avons des différences d'âge, nous avons des différences de niveau social, nous avons des différences de culture. Nous avons de nombreuses différences et pourtant nous sommes tous des disciples de Jésus appelés à faire des disciples. Et dans notre région, il y a des populations auxquelles nous ne nous sommes jamais adressés, à qui nous n'avons jamais tenté de partager notre foi, avec lesquelles nous n'entrons pas en contact, en relation. Notre église est implantée ici à Damary-les-Lys, dans une ville de quoi, 25 000 habitants, qui appartient à une agglomération, celle de Melun, où il y a plusieurs autres communes qui se touchent, La Rochette, Melun, Volpénil, Le Mets-sur-Seine, et qui, à toutes ensemble, forment une ville, une agglomération d'environ 120 000 habitants. C'est vrai que si nous étions dans une ville de province de 120 000 habitants, nous serions heureux d'avoir une église de cette dimension. Parce que si nous avions une église adventiste de 200 membres, en gros, dans toutes les agglomérations de 120 000 habitants, notre église serait beaucoup plus forte en France qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais nous vivons dans une région qu'on appelle l'Île-de-France, où s'accumule la population, y compris la population adventiste. Il est donc indispensable que dans cette région, on ne réagisse pas comme on réagit face à la situation de la province, et que l'on puisse se dire qu'il est important d'implanter des églises, de resserrer le filet, les mailles du filet de notre présence dans cette région. Et plus nous serons nombreux en tant qu'Église, plus nous serons en mesure de viser des populations. La population de Damary-les-Lys nous connaît, elle repère notre bâtiment qui est visible sur le rond-point ici. Et même si la municipalité n'a pas encore fléché église adventiste comme elle a fléché la mosquée ou l'église catholique, pourrait obtenir qu'elle le fasse. Mais quel impact a notre église sur les habitants de Volpénil? Quel impact a notre église sur les habitants du Mets-sur-Seine? Quel impact a notre église pour les habitants de Melun? Très peu. Les municipalités nous connaissent à peine, les associations qui vivent dans ces différentes villes voisines nous ignorent, à part quelques-unes. Peut-être que certains de nos membres qui habitent dans ces communes voisines ont quelques relations avec les uns ou les autres, c'est vrai. Mais en tant qu'Église, nous n'avons pratiquement aucun impact en dehors de la commune de Damary. Et bien sûr, il y a quantité d'autres communes qui sont là autour de nous, en plus de celles qui forment l'agglomération melunaise. Alors, la deuxième raison que nous avons, c'est d'atteindre de nouvelles populations. Il nous faut atteindre de nouvelles populations. Le Dieu de la Bible a des enfants partout, et ces enfants, il les veut dans son royaume. Notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et il souhaite que nous nous préoccupions de ceux que nous n'avons pas encore atteints d'une façon ou d'une autre. Et puis, dans ce texte, le Seigneur Jésus va dire aussi « Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai dit. » Il y a une tâche d'enseignement, de formation. Et on constate que les disciples sont vraiment formés lorsque non seulement ils connaissent le message de Jésus-Christ, mais lorsqu'ils sont capables de le vivre. C'est enseigner une pratique, c'est pas enseigner une théorie, c'est enseigner à vivre d'une certaine façon. Et la vie en Christ est une vie qui s'illustre par exemple par cette expression fréquente de l'Évangile qui dit « porter du fruit ». Porter du fruit, c'est entre autres ce fruit de l'esprit qui nous fait grandir dans des vertus, qui nous fait ajouter à notre caractère des qualités qu'il n'avait pas forcément naturellement, qui nous fait nous transformer à l'image du Christ. Et on constate que plus nombreuses sont les églises, plus jeunes sont les églises et plus elles sont efficaces dans la transformation de leurs membres à l'image du Christ. Il nous faut donc aussi nous lancer dans le projet d'implantation d'une nouvelle église pour que nous puissions progresser spirituellement. C'est l'une des raisons, et elle est loin d'être négligeable. Et évidemment, pour multiplier nos engagements. Dans toutes les églises aujourd'hui, il y a des membres qui sont engagés, mais c'est souvent un faible pourcentage. Il y en a quantité d'autres qu'on pourrait comparer à des consommateurs qui viennent parce que ils reçoivent quelque chose qui donne, peut-être, quand les plateaux circulent, qui donne un peu de temps pour venir assister au service de culte, mais pas grand-chose de plus. Or, notre bonheur est proportionnel à la qualité de notre engagement. Et nous avons besoin les uns et les autres de réfléchir à ce que le Christ attend de nous. Et plus nous serons engagés dans un travail précis, avec un objectif précis, plus nous serons heureux et plus nous grandirons dans notre foi. Voilà donc quelques-unes de ces raisons importantes que nous avons d'unir nos forces. Parce que l'un des effets supplémentaires d'avoir un projet précis de ce genre-là, c'est de nous unir. Et parfois, il est difficile d'être unis dans une église où on ne parvient pas à connaître chacun des membres, où on a l'impression que des clans peuvent se former, des petits groupes s'entendent bien entre eux, mais ne communiquent que très peu avec d'autres sous-groupes de l'Église. Mais si nous nous mettons tous ensemble dans un projet qui est un projet constructif, positif, qui correspond à la volonté de Dieu, alors notre unité va grandir, va se fortifier. Alors nous pourrons réaliser ce que le Seigneur attend de nous. Lorsque notre ancien pasteur Philippe Leduc a réfléchi avec le Conseil des anciens, avec le comité d'église, à ce que l'on pourrait faire pour dynamiser notre église et renforcer sa présence dans cette région, un plan a été conçu et qui a été exprimé par un verset du prophète Ésaïe et qui disait « Élargis ta toile et affermis tes piquets, étapes ». Et dans ce projet, il y avait comme un des aboutissements concrets de créer une nouvelle église dans la région pour contribuer à l'élargissement du royaume. Alors, c'est quand nous aurons réalisé ce qui avait été projeté que nous trouverons le bonheur. D'ailleurs, comme le dit l'un de mes amis, heureusement, on a fait ce qu'on avait dit. Et oui, quand nous aurons fait ce que nous avons dit, quand nous aurons fait ce que nous sommes engagés à faire avec notre ancien pasteur, notre nouveau pasteur pourra se réjouir aussi avec nous, parce que nous aurons fait ce que nous nous étions engagés à faire. Le Seigneur est avec nous, il veut être avec nous. Cette promesse qu'il a faite, elle est là, liée à cet ordre qu'il a donné. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.